Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Vous le savez, il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Le plus souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, vous le savez, depuis plus de 3 mois, nous les déminons, nous les expliquons, ou simplement vous permettre de mieux les connaître sur l'antenne de Beurre FM. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants. Après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Alors aujourd'hui, c'est le mot « intégration » qui est sur la sellette. D'après un sondage publié en ce début d'année, l'immigration ne serait pas perçue par les Français comme l'une des principales menaces à l'identité nationale. Elle arrive, en tout cas, loin derrière l'affaiblissement économique ou la désindustrialisation, par exemple. Pourtant, la politique d'immigration de la France se retrouve souvent au cœur des débats politiques. Beaucoup remettent en cause notre système d'intégration et proposent de le modifier drastiquement. Mais qu'est-ce qu'on reproche tant à l'intégration ? Notons d'abord que le verbe « intégrer » a été utilisé dès le XVe siècle pour exprimer l'idée de faire participer, d'associer. Toutefois, c'est au début du XXe que le terme prend pour signification le fait d'introduire un élément dans un ensemble afin que, s'y incorporant, il forme un tout cohérent. L'intégration, c'est donc incorporer un élément étranger à un groupe afin d'en constituer un tout organique. L'intégration des étrangers, c'est donc un processus et une politique publique qui consiste à incorporer quelqu'un de nouveau dans un groupe déjà constitué, tout en veillant à obtenir comme résultat une société unie. S'intégrer en France, c'est se reconnaître et s'identifier comme membre d'un collectif avec lequel on partage des normes et des valeurs que l'on respecte, les valeurs de la République. Mais s'intégrer ne signifie pas pour autant abandonner ses spécificités culturelles ou sa culture d'origine. En revanche, demander à un étranger de s'assimiler, du latin « assimilare », « rendre comme », c'est lui demander de nier son identité et de couper tout lien avec sa première culture. Aujourd'hui, certains polémistes recommandent l'assimilation car ils estiment que le processus d'intégration est défaillant. D'après eux, les étrangers devraient continuellement montrer des preuves de leur appartenance à la société française. À la manière des critères de civilisation autrefois utilisés, ils exigent des preuves farfelues, comme un changement de nom, par exemple, ou de prénom. À noter que l'assimilation, comme notion juridique, est toujours exigée pour accéder à la nationalité française, ce qui signifie le respect de 3 critères, parler la langue, respecter l'égalité homme-femme et refuser la polygamie. À l'assimilation radicale qui rejette les différences, la France a donc préféré un modèle d'intégration qui se fonde sur l'ouverture à l'altérité sans perdre de vue le principal, le respect des valeurs républicaines et de l'universalisme nous permettant de faire société ensemble. Et donc, l'intégration, nous allons en discuter avec notre invité, Monsieur François Héran. Monsieur Héran est sociologue, démographe, anthropologue. Il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et société. Il est également directeur de l'Institut Convergence Migration, et il a publié en 2021 un essai intitulé « Lettre au professeur sur la liberté d'expression » aux éditions La Découverte. Bonjour François Héran.
Bonjour.
Alors, certains observateurs disent que l'intégration est aujourd'hui plus compliquée qu'auparavant, car beaucoup d'immigrés actuels viennent de sociétés au système de valeurs fort différent d'une autre et avec un niveau d'éducation très faible. Selon vous, est-ce la réalité ?
Eh bien, le niveau d'éducation des migrants a plutôt augmenté dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui a été nettement attesté par l'INSEE, en particulier parce que nous avons une part non négligeable des migrants qui ont fait des études. Leur niveau d'études a augmenté. Certains viennent un nombre assez important. 90 000 à peu près par an viennent en tant qu'étudiants. Donc la migration estudiantine contribue à relever le niveau d'éducation. Les pays d'origine ont des niveaux d'éducation qui ont pas mal progressé. Donc non, je pense que la tendance est plutôt inverse de celle qu'on décrit.
Oui, mais alors, en même temps, on nous dit que certaines diasporas qui commencent à se former sur le territoire sont quand même très éloignées en termes de système de valeurs d'une autre. Par exemple, la communauté afghane, sri-lankaise, bangladaise, et ces populations présenteraient plus de difficultés d'intégration que les anciennes vagues de migrants.
Alors, il y a toujours une sous-estimation des difficultés qu'avaient rencontrées les précédentes vagues de migrants. Tous les historiens qui ont étudié la migration belge au XIXe siècle, qui était une immigration essentiellement flamande, la migration italienne, espagnole, etc., en réalité font état de réactions souvent très vives de la part des populations locales. Les Espagnols, par exemple, dans les années 30, étaient perçus comme des communistes, des rouges qui avaient le couteau entre les dents. L'idée qu'ils étaient catholiques ne dominait pas du tout. Et les témoignages qui ont été apportés sur des migrations encore plus anciennes, les Belges et les Flamands qui ont beaucoup travaillé dans les usines textiles du nord de la France, ont travaillé également dans les mines, ont montré qu'ils étaient perçus comme des barbares, comme des étrangers, etc. Donc il y a une forte surestimation de la distance culturelle qui était perçue autrefois vis-à-vis des migrants. Les Italiens eux-mêmes n'étaient pas très bien perçus. Et puis les Polonais, ils avaient beau être catholiques, on leur reprochait d'avoir un catholicisme à part, d'amener en France leurs propres prêtres, d'avoir des rituels qui étaient différents des nôtres, etc. Et leur catholicisme était en péril le nôtre. Donc, en réalité, on arrive toujours à trouver des distances avec les migrants. Et je pense que, alors, il ne faut pas nier qu'effectivement, que l'islam peut créer effectivement des distances, une distance culturelle sur le plan de la religion. Mais enfin, tous les indicateurs qu'on a sur l'intégration des populations qui viennent du monde arabe sont plutôt en progression.
Alors, le respect, justement, le respect des valeurs de la République est un élément fondamental du processus d'intégration. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour qu'une intégration soit réussie ? L'Allemagne, par exemple, peut-elle servir de modèle en termes de politique publique d'intégration ?
Eh bien, je pense qu'un des problèmes de notre politique d'intégration, c'est qu'elle est mise sur une relation très verticale. Il y a l'idée développée par certains auteurs que l'intégration, ce serait essentiellement un lien civique, un lien vertical qui irait directement de l'individu à l'État. Et je pense qu'on oublie dans cette perspective l'importance considérable de tous les liens horizontaux, des relations de travail, des relations de voisinage, des relations avec tous les commerces locaux. Et en Allemagne, par exemple, les cours d'intégration, les cours consiste beaucoup à enseigner au fond des modes d'emploi. On amène le groupe dans un grand magasin, on lui montre comment ça fonctionne. Et voilà, je pense qu'il y a une surestimation du lien vertical chez nous et une importance insuffisante enfin accordée aux liens horizontaux. Alors évidemment, un des grands vecteurs de l'intégration, c'est l'apprentissage de la langue. On l'a assez longtemps sous-estimé en France parce qu'on avait le sentiment que la plupart de nos immigrés venaient de nos anciennes colonies et donc étaient nécessairement francophones. Et puis, on s'est aperçu assez tardivement, des efforts ont été faits, qu'il était tout à fait essentiel de développer les cours de langue parce qu'effectivement, l'adaptation à la vie sociale d'un nouveau pays, ça passe aussi bien sûr par la connaissance de la langue.
Rapidement, en un mot, selon vous, que reprochent véritablement à l'intégration les partisans d'une assimilation radicale et qui se situe en général à la droite extrême, voire à l'extrême droite du spectre politique?
Vous savez, je crois qu'il faut toujours en revenir aux fortes paroles de René Cassin quand il a justifié le fait qu'on ne devait pas faire de hiérarchie ethnique dans les ordonnances de 1945 qui avaient été signées par le général de Gaulle. Il expliquait qu'on pouvait tout à fait avoir une double loyauté, qu'on était tout à fait capable d'appartenir à des pays de l'Europe du Sud, de l'Europe de l'Est, qui paraissaient encore très lointaines à cette époque-là et que certains jugeaient indésirables, et que tout en gardant une loyauté avec son pays d'origine, on pouvait être loyal envers la France. Et je pense que c'est cela qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que l'intégration, ça n'est pas l'oubli des origines, ça n'est pas l'exclusion des origines. On est capable de s'intégrer dans deux cultures à la fois.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous séparer. Merci François Héran.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.